Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. Vous aimez cette émission de 9h à midi, le samedi et le dimanche. Vous nous le rendez bien et on essaye évidemment pour vous d'être à la hauteur avec Christophe Cessieux ce matin, David Douillet, Fred Weiss, Fred Le Canu. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, est-ce l'ADR de Djoko à Roland? On va tout vous expliquer sur ce qui s'est passé hier soir, Porte d'Auteuil. 10h30, la folie, Loïs Boisson à Roland Garros. La joueuse française est devenue une star en 10 jours. Son conte de fées sauve-t-il le Roland-Garros des Français? Et puis 10h45, vous le savez, vous prenez les commandes de cette émission. Mais GG, un débat à nous proposer, c'est votre exercice. Ensuite, c'est soumis au vote. Et le grand gagnant viendra exposer sa problématique. Christophe Cessieux, tu nous proposes quoi?
Je vais vous parler de la dernière soirée de Top 14 ce soir. C'est génial.
21h05.
Un multiplex extraordinaire. C'est simple, sur les 14 équipes qui vont s'affronter, il y en a 12 qui ont un truc à jouer quand même ce soir. Ça va nous changer de la Ligue 1 cette dernière soirée où on était ensemble. Heureusement qu'on était ensemble et que tu nous as fait à manger parce qu'on s'est emmerdé. Mais alors, d'une force.
Mais alors, velu. C'est ça que tu veux. Ok, alors, très bien.
Là, ce soir.
Ok, bon, la dernière journée du Top 14. C'est le programme pour Christophe Cessieux. Fred Le Canu, ta proposition.
Alors les amis, c'est un sujet un petit peu sensible pour Fred Weiss qui n'a pas compris ce matin quand je lui ai expliqué. Multiplication des profils, compétition, tout ça est extrêmement peu clair. Les critères sont trop subjectifs pour ce ballon d'or qui appelle aujourd'hui un lobbying ridicule. Donc la désignation du ballon d'or doit-elle passer désormais par l'intelligence artificielle? Pourquoi? Pour avoir des critères clairs, pour avoir une vision tout au long de l'année, pour enfin désigner quelque chose qu'on comprend entre les défenseurs et les attaquants.
Bref, à rien du tout.
On va nous aider pour que l'intelligence artificielle devienne quelque chose.
On n'a pas besoin d'aide pour ça quand même.
Aidez-nous les gars, votez pour moi.
Ok, sachez qu'à 11h on aura un débat déjà sur le ballon d'or. Faut-il faire campagne? Est-ce qu'un pays doit faire campagne, les copains? Mais tu nous proposes le ballon d'or et l'intelligence artificielle, pourquoi pas?
JC a voulu nous faire un débat choisi par l'intelligence artificielle, mais il s'est fait rebooter. À part
la chefferie. Oui, on m'a dit, écoute, fais ton métier de journaliste, c'est à toi de proposer des débats. J'ai dit, ouais, bah, attends, s'il faut bosser, en plus,
c'est
maintenant,
vrai,
c'est fou, ça.
Alors que maintenant, il bosse, il te pique tes dossiers.
David Douillet, ta proposition.
Moi, je me suis réveillé avec une gueule de bois. Il y avait longtemps que ça m'était
qu'est-ce
pas arrivé.
Qu'est-ce que t'as fait hier soir?
Ouais. Non, c'est pas hier soir, c'était le lendemain des festivités du PSG. Où, on a constaté tous qu'il y avait eu une espèce de mini-guerre civile qui s'était déroulée. Et je suis encore dans l'étonnement. Je me dis, mais comment dans notre pays on peut avoir ça aujourd'hui alors qu'il y a un an, pendant les Jeux et après les Jeux, il n'y a rien eu de tout ça, il y a eu l'opposé. Donc on va essayer de répondre à ces questions parce que j'ai quelques réponses à vous donner. Donc pourquoi?
D'autant, David, que tu as vu que la finale de la Coupe d'Europe de rugby remportée par un club français n'avait donné lieu à aucun geste.
Exactement.
Aucun débordement. Okay, très bien. Fred Weiss.
Alors, tout était intéressant, sauf Fred Le Canu. Mais j'ai envie de parler de basket.
Tu vois, quand on propose un truc intelligent.
Allez, on avance.
Mais laisse-moi parler.
Plus
de 700 000 licenciés. Une formation reconnue dans le monde avec la draft NBA. Des clubs et des équipes nationales qui performent. Le groupe TF1 qui reprend les droits de l'équipe de France, de basket. Le basket est-il en train d'enfin obtenir
le rêve, qu'il mérite
en France?
C'est un sujet, c'est un
deuxième sport co en France. C'est le deuxième sport co et bientôt on va enfin le montrer.
Et quoi, écoute,
pas en termes de gens, ça.
Moi vivant, là, dans
Fred,
cette
il
émission,
a jamais gagné.
On parle pas
il
de basket. Bah, c'est normal, basket. Il ne propose que du basket.
Alors, c'est jamais gagné avec du basket.
Ok, les copains. Allez, je reprends la main. Pour débuter cette deuxième heure, Paul Valéry a dit un jour, les grands hommes meurent deux fois. Une fois comme homme et une fois comme grand.
RMC, le bras de fer GG.
Balle de match numéro 2 pour Yannick Sinner, qui va peut-être décrocher sa première finale ici sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Le silence se fait. Deuxième balle dedans. Retour moyen de Djokovic. Sinner, voilà, ça va dans le filet. Et Yannick Sinner décroche sa place en finale de Roland-Garros. Et jouera donc Alcaraz dimanche. Quel régal. C'était un sacré combat. Belle poignée de main. Beaucoup de respect entre les deux. Je ne sais pas si Djokovic parviendra un jour à remporter le 25e. Je pense qu'il aura une fenêtre de tir à Wimbledon et ce sera peut-être la dernière.
Une main sur la terre battue, un discours énigmatique, il n'en fallait pas plus pour créer l'émoi. Hier soir, Novak Djokovic a donc été éliminé en demi-finale de Roland-Garros par Yannick Sinner en 3-7. Le Serbe est tombé avec les honneurs, c'est vrai, après 3h16 de haute lutte. L'homme aux 24 grands chelems n'est pas sorti comme d'habitude du cours Philippe Châtrier. Des applaudissements prolongés au public parisien, une émotion palpable et un discours après la rencontre qui laisse planer le doute. Est-ce la dernière de Djoko à Roland? On va se poser des questions, on va tenter d'analyser ce qui s'est passé hier soir, porte d'Auteuil. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, c'est Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Indéniablement, et tu l'as senti venir, il s'est passé quelque chose hier soir.
Ouais, il était 22h30 précise et c'est vrai, on a entendu dans le sujet la poignée de main qui était belle, mais ce qui s'est passé derrière était encore plus fort émotionnellement puisque Novak Djokovic, comme la tradition le veut, c'est le battu, donc il quitte le cours et il va pas tout droit. Il bifurque un peu, il se dirige vers le milieu du central, il pose ses sacs et là il remercie le public parce que il le dira plus tard, il avait jamais autant été encouragé par les Parisiens. Et c'est vrai qu'on se souvient des matchs contre Nadal et Federer. Il était dans la peau du... C'était pas lui le héros. Hein. On poussait tous derrière Rog et Rafa. Et donc il pose son sac, ovation monstre des spectateurs. Il reprend son sac et là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il fait trois pas, il repose l'un de ses deux sacs, il embrasse sa main et il pose sa main sur l'ocre sacré. Et là, tu te dis, oula, il se passe un truc. Moi, là, j'interprète, c'est la fin du voyage. Une demi-heure plus tard, il vient en conférence de presse et là, les mots sont très forts.
This could have been the last match ever I played here.
Cela aurait pu être mon dernier match. Je ne sais pas si c'était mon jubilé. Cela aurait été une belle ambiance jusqu'à la fin.
My career was a wonderful one in terms of the atmosphere and what I got from the crowd. I said it could have been my last match. I didn't.
J'ai dit que c'était peut-être mon dernier match, mais pas que ça l'était, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer en 12 mois.
I don't know right now. 12 months.
Alors, ce ne sont pas les paroles d'un retraité, parce que il l'a réaffirmé plus tard. Il veut jouer Wimbledon, avec le désir de le gagner. On sait qu'il adore le gazon. Il veut aller à l'US Open. Mais après, ça lui paraît tellement loin, Roland-Garros, que oui, c'est probablement le dernier match de sa carrière. Et ensuite, en conférence de presse, Yannick Sinner est arrivé et un journaliste lui a informé des déclarations du Serbe. Écoutez.
I didn't know that. Well, first of all, we hope that it's not that the case.
Je ne le savais pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Je pense que le tennis a besoin de lui d'une certaine manière. Avoir quelqu'un différent des jeunes, c'est vraiment bien. Et puis, c'est incroyable de le voir dans le vestiaire et l'énergie qu'il dégage. Je l'ai vu s'entraîner il y a quelques jours. Il est très précis dans tout ce qu'il fait. C'est un vrai modèle pour nous tous.
Il était minuit 30.
Si c'était le cas, je suis heureux d'en faire partie. Parce que c'est une page d'histoire. Mais on va espérer que ce ne soit pas le cas. Il a dit peut-être, donc on ne sait jamais.
You never know.
Je vous cache pas qu'il était minuit 30 dans la salle de presse de Roland. On était tous un peu sous choc. Parce que ouais, on a le sentiment d'avoir vécu un moment historique.
Ok les GG, quand vous entendez ce que vient de nous raconter Eric Salio, vous avez entendu aussi les deux joueurs, Yannick Sinner, Novak Djokovic, comment vous l'interprétez? Est-ce que pour vous c'est la dernière de Djoko à Roland, Fred Weiss?
Oui. Oui, et j'espère que ce soit sa dernière. Parce que c'était trop magnifique, c'était incroyable, c'était ces sensations, la chair de poule. Comment partir mieux que ça? Il est parti, il était encore compétitif. Il faut employer le conditionnel. Il serait parti alors qu'il est compétitif, qu'il a été bon, qu'il a été acclamé par le public. Il embrasse le sol. Je trouve que tout serait parfait. On a envie de voir nos idoles arrêter alors qu'ils sont encore compétitifs. Il l'est. Ça serait un départ magnifique. On serait tous ravis de ça. Et des étoiles dans les yeux. Je sais que certains qui ne sont pas romantiques à cette table penseront peut-être le contraire. Je pense à Fred Le Canu. Mais que romantique.
Tu l'es créé en un mot, deux mots, romantique.
Pardon?
Je peux être romantique aussi. Tu vas le voir dans quelques instants.
Ça m'étonne pas. Je suis pas sûr.
Vas-y, Fred Le Canu, t'as été interpellé.
Bon, j'adore le côté poétique de mon ami Fred. Maintenant, on va parler de la réalité des choses. Moi, je te fais le pari qu'il sera là l'année prochaine. Pour une raison toute simple, le business. Parce que la réalité, vous m'avez raconté, et en plus, je suis d'accord avec vous, c'est magnifique, le timing est super, il a envie d'arrêter, on est en suspension. Et tu sais quoi? Ça vaut beaucoup d'argent de revenir l'année prochaine. Et les athlètes de haut niveau, à un moment donné, t'as jamais gagner autant d'argent sur le sponsoring, sur tout ce que ça concerne autour, au moment où t'es au plus connu, au plus haut.
Fred, tu peux pas te mentir, tu sais mieux que personne, tu peux pas te mentir quand t'es un sportif au niveau. C'est-à-dire que.
Ah non, je te dis pas ça, Fred.
Aller à l'entraînement, ça te coûte, c'est dur.
Ouais, c'est pas du tout ce que je te dis. Je te dis qu'il est pris dans une nasse. Et je te donne un exemple très précis. Et je te donne un exemple très précis, c'est Nadal. Nadal, tu crois que les derniers matchs qu'il a fait, il avait envie de les faire? Moi, je suis pas persuadé. Les derniers, tu crois que, moi, je pense qu'il est pris dans un engrenage où il est obligé de faire parce que derrière lui, il y a une dimension économique, il y a des staffs, il y a des choses.
Je peux te donner son prize money.
Ils sont au-delà de ça, ils ont gagné tellement de millions.
187 millions de gains. Tu crois qu'il est à sa prime, franchement.
Vous savez quoi? Rendez-vous ici, ce jour même-là. On sera ensemble sur ce plateau pour Roland Garros.
Tu parles de la dimension économique, là où je peux te rejoindre et je vais aller voir Christophe et David sur ce sujet et Sarah Pitkowski va nous rejoindre dans quelques instants pour avoir aussi son avis. C'est plutôt la dimension émotionnelle. Est-ce qu'à chaque fois un champion, et on en a souvent parlé dans cette émission, n'a pas envie de remettre comme ça le couvert parce qu'il se croit à un moment donné éternel?
Là, il se ménage quand même une éventuelle porte de sortie. Je pense qu'hier soir, il avait vraiment envie de dire au revoir, je m'en vais, mais il s'est retenu parce que on sait jamais si je suis encore hyper performant, si je gagne Wimbledon, si je gagne l'US Open ou que je vais en finale, je pourrais peut-être faire un dernier Roland. Je suis persuadé qu'hier soir, il a eu envie de dire, et ça aurait été génial, parce que là, personne ne le savait. Et au moment de quitter le central, s'il avait dit, messieurs, dames, public de Roland-Garros, vous me découvrez enfin, vous m'aimez enfin après toutes ces années de désamour entre nous, eh bien, c'est sur ce cri d'amour que je vous dis, je quitte Roland-Garros. Là, tu t'imagines le truc? Ah, ça aurait été fantastique. Le scénario aurait été dingue. Mais je pense qu'il se garde toujours une petite porte de sortie, comme l'avait fait Nadal, comme l'avait fait Federer. C'est difficile pour ces mecs-là d'arrêter d'un coup, de dire, c'est la dernière. Ils ont toujours eu la petite envie et l'espoir, le secret espoir, de continuer à être hyper performant. Mais hier, franchement, Sinner est une machine. C'est un fantastique joueur. Mais Djoko, je veux dire, à son âge, il bat 99% des joueurs de la Terre avec ce tennis-là. C'est dingue. Donc moi, ça me rend triste de le voir arrêter Roland Garros ou sa carrière de tennisman. Parce que quel talent,
mais c'est pas
et quelle volonté.
On va laisser parler David Douillet, mais vous vous rendez compte quand même que Novak Djokovic, il a écrasé tout le monde et à chaque fois on disait oh là là, ça va, il va encore gagner. Il n'était pas soutenu parce qu'il écrasait tout le monde. Et c'est au moment où il écrase plus tout le monde que tout le monde se dit waouh, on l'adore Novak Djokovic.
C'est le dernier des trois. On a pas le premier.
Qu'est-ce que c'est injuste pour lui quand même. Il a applaudi, il a acclamé le jour où en fait il peut pas gagner. La réalité, c'est ça.
Franchement, il donne quelque chose. Il donne quelque chose de plus au public parce que Sinner, fantastique joueur, mais alors c'est un robot, quoi. C'est un robot.
Oui, mais c'était pareil avec Djoko quand il était plus jeune.
Non, il imitait Nadal, il imitait Federer, il était
déçu.
C'était une personnalité.
Je suis déçu, les copains, parce qu'il n'y a personne autour de cette table qui a fait l'effort de se mettre dans la tête de Djokovic. Aujourd'hui, c'est non, le joueur. Sais, moi, ça rentrait pas, retente encore une fois.
C'est pour ça que tu es dans cette émission, David. Vas-y.
Non, mais aujourd'hui, c'est le joueur le plus âgé qui a fait une demi-finale à Roland Garros, 38 ans et demi. Voilà. Bien sûr que c'est pas l'argent qui le motive. Bien sûr que c'est pas le modèle économique qui le motive. Tu as tort, Fred Le Canu. Tu as vraiment tort. Il a gagné suffisamment d'argent, etc., etc. Il est sur la fin de son parcours. Il est dans l'entonnoir qui se réduit au fur et à mesure. Il le sait, il le sent, il le voit, et il essaye de trouver une porte de sortie. Et la porte de sortie pour un garçon comme Djokovic, c'est quoi? C'est gagner un tournoi du Grand Chelem. Point. Donc pourquoi il dit aujourd'hui, je ne sais pas si je serai là l'année prochaine? Ça veut dire que s'il n'a pas gagné Wimbledon ou s'il n'a pas gagné l'US Open, il reviendra à Roland Garros pour essayer de terminer sa carrière sur une victoire énorme, une victoire en grand chelem. Il cherche le point de clôture et c'est tout ce qui l'anime aujourd'hui. Il cherche le dernier beau combat et la dernière grande victoire et c'est ça qui l'anime et rien d'autre.
C'est désespérant de constater que ça fait des années non seulement que tu m'écoutes pas mais que tu me comprends pas. Je t'ai pas dit que c'était un problème d'argent. Je t'ai dit que c'était une considération d'un modèle économique, ce qui n'a rien à voir. C'est sa responsabilité. J'ai pas dit qu'il voulait gagner l'argent à chaque fois du match. Je t'ai dit qu'il était responsabilité d'un modèle économique. Et tu le sais très bien. La capacité que tu as eue d'arrêter après Sydney, c'est parce que tu avais anticipé le truc et tu étais déjà parti sur autre chose. Là, pourquoi on dit c'est énigmatique, il sait pas trop.
Oui, mais tu cherches la fin d'histoire.
Parce qu'il peut pas le dire.
Tu cherches à écrire la fin d'histoire.
Sportif par rapport à son talent. Parce que toi, tiens, pour faire la comparaison après Sydney, t'étais tellement rôti, mon pauvre David, que tu savais très bien que c'était la fin de l'histoire, alors que lui, peut-être, il en a encore. Oui. Tu le sais. Et derrière lui, potentiellement, physiquement, il peut le faire encore, et qu'il a encore un grand tournoi à gagner.
Et il y a tout un modèle économique derrière qui fait qu'il ne peut pas l'annoncer. C'est ça que tu veux nous dire.
C'est pas vrai. Exactement. C'est pas vrai. Il a l'intelligence, il a le recul pour se dire comment j'écris la fin de mon histoire. C'est tout.
Sarah Pitkowski est avec nous justement pour nous parler de l'ADER de Djoko. Sarah qui va commenter la finale dames sur RMC cet après-midi. Les deux meilleures joueuses au monde, Sabalenka, Coco Gauff. Mais là, parlons de Novak Djokovic. Sarah, quelle est ta lecture? Est-ce que c'était la dernière de Djoko à Roland? Salut Sarah.
Salut les GG.
Salut Sarah.
Je vous ai tous écoutés et vous me faites vaciller quand même. Hein. Alors je suis d'accord avec un Fred. Alors lequel?
Oui, lequel?
Bah, c'est facile, lequel.
C'est le romantique.
Le plus grand.
C'est le plus romantique.
Le plus grand de quelques centimètres. Non, en fait, il y a des choses qui sont forcément justes. Après, quand vous demandez un joueur de tennis qui vient de passer 3h30 sur le terrain, qui est 1h30 après en conf de presse, donc on parle encore d'être à chaud.
Il ne peut pas se projeter
dans un an de ce qui va se passer. Il y a tellement de choses qui rentrent en considération. Vous avez raison. Les choses qui rentrent en considération, il y a son état de forme, son état physique. Est-ce que d'ici là, il aura remporté ce fameux 25e titre pour lequel il court aujourd'hui et de battre le record de tous les records? Mais c'est, pour un gars de 38 ans, un an, c'est super long. Donc en fait, il n'aura pas une cérémonie comme Nadal, on est bien d'accord. Il n'a pas marqué Roland-Garros comme Nadal. Donc, s'il ne revient pas sur ce cours central l'année prochaine, ça lui a traversé l'esprit l'espace de quelques millièmes de secondes. Et il s'est dit, ce cours, j'y reviendrai peut-être pas en tant que joueur de tennis. Donc, il veut en profiter. Et il le dit en conférence, il dit, could be. Il est vraiment en fait, il ne sait pas. Et je vais vous prendre une comparaison. Gaël, mon fils, on lui a posé la même question, ils ont le même âge. Gaël a dit à la fin de son match, je ne sais pas. Et là, il a dit, je jouerai encore en 2026. Tu peux pas le dire à chaud, en fait. Enfin, on demande à un sportif d'écrire la dernière page en l'espace d'une heure, une heure et demie de temps après un match aussi intense. Enfin, c'est pas possible à faire. C'est impossible à faire. Et s'il revient à Roland-Garros, je sais pas s'il se dit, je vais aller chercher un titre à Roland-Garros. Je pense que aujourd'hui, le combat qu'il a mené hier, il nous a montré un niveau de tennis qui est tellement exceptionnel. Et en face, c'est meilleur. C'est meilleur avec Sinner, ce sera meilleur avec Alcaraz. Et dans un an, il y aura peut-être encore plusieurs autres joueurs. Musetti, pardon, il va falloir s'en méfier. Donc en fait, ses adversaires sont sur terre battue, ils vont pas diminuer, ils vont augmenter. Donc, et s'il revient, je pense pas que ça soit dans l'esprit de gagner Roland-Garros. Je pense que, comme le disait Christophe Cessieux, effectivement, s'il a une petite chance d'aller gagner le 25e, ce sera plutôt sur surface rapide que sur terre battue.
Alors j'entends ce que tu dis, Sarah. Tu parles d'un joueur de haut niveau comme ça, et on peut le comprendre, ne peut pas décider en une heure de mettre fin à sa carrière. Alors pas immédiate, mais de dire dans un an, je ne serai pas là. Et pourtant, à l'issue de la rencontre, alors c'est peut-être à chaud justement, mais c'est à chaud. Il embrasse la terre battue, il pose ses sacs, il salue le public. Enfin, je veux dire, il a peut-être improvisé, on a senti qu'il disait au revoir.
Il a pas improvisé. Avant ce genre de match, quand on a son âge, quand on a sa carrière, quand on a son vécu, on a tous les scénarios en tête, on sait ce qui va se passer. On peut soit gagner ce match, soit le perdre de façon plutôt très, très bien, parce qu'il a été hyper performant. Mais tu sais, il le sait au fond de lui, et quand il le dit, même s'il est à chaud, il a ce recul, il a cette froideur d'esprit capable de dire, voilà ce que je ressens.
J'étais à sa conf, il était apaisé en conférence de presse.
Évidemment.
Totalement apaisé. Totalement, ça m'a frappé.
Oui, parce que Eric, il est apaisé parce que il a joué probablement un des meilleurs tennis de ces derniers mois. C'était exceptionnel. Sauf que là, il est obligé de reconnaître une forme d'impuissance. Il y a meilleur que lui, il y aura meilleur que lui maintenant.
Et Sarah, c'est pas pour ça qu'on le reverra pas l'année prochaine. Parce que
non,
peut-être,
c'est pas pour
qu'il,
ça qu'on
peut-être,
le peut-être qu'il
a dit adieu, peut-être qu'il a dit adieu sur, tu vois, qu'il a touché avec la main et tout, parce qu'il a dit adieu au potentiel de le gagner, parce qu'il a joué de manière optimale. Mmh. Et en jouant de manière optimale, il l'a pas gagné, donc il se dit peut-être que je le gagnerai jamais. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, qu'il le dépasse. Et Sinner, il dit, ah, il faut pas arrêter et tout, parce qu'il y a une dimension aussi de com, d'avoir Djokovic à Roland Garros. C'est mieux qu'il soit là, qu'il soit pas là, pour toutes les raisons que ça, hein, ça c'est qu'il en décline et qu'il en découle. Ça veut dire que c'est pas pour ça qu'il sera pas là l'année prochaine.
On a un exemple récent.
Ça rentre pas dans son profil psychologique. C'est pas Djoko, on parle pas de Djoko. Il va pas participer à un tournoi. Quand il s'affiche à un tournoi, c'est pour essayer de le gagner. Voilà, c'est tout.
Attends,
il
y a pas, David, on disait, et je te relance, mais on disait la même chose de Nadal. Et pourtant, Nadal, on a un exemple très récent où il est arrivé à Roland-Garros plus comme une tournée d'adieu, alors que ça nous paraissait impensable 2 ou 3 ans auparavant, comme une tournée d'adieu. Alors, il n'avait pas de chance au tirage parce qu'il chope Zverev au premier tour, mais il ne s'attendait pas à gagner s'il est lucide avec lui-même. Il ne s'attendait pas
Nadal
à gagner.
C'est pas... Est-ce qu'on est lucide?
Non, mais j'ai dit Nadal, c'est pas Djokovic. Ils n'ont pas du tout le même profil psychologique. C'est pas du tout la même chose.
Bah, on verra ça l'année prochaine, David.
Oui, mais
non,
me rejoins, David, sur le fait que ce sont deux sportifs extraordinaires, hors du commun, et que leur volonté a toujours été de se lancer dans un tournoi pour le gagner. Enfin, c'est commun aux deux joueurs.
Mais Nadal était en bout.
Oui, c'est commun aux deux joueurs, mais Djoko, il a un cran au-dessus au niveau du mental. Je trouve qu'il a un cran au-dessus.
Alors tu sens qu'il a quand même un peu, il a besoin de se faire masser pendant le match, mais physiquement, pendant tout le tournoi, il a quand même été au niveau là. Il a fait un match hier digne d'un numéro 2, 3 mondial.
Souvenez-vous, tu vois, moi ce qui m'a donné le plus d'éclairage sur son profil psy, c'est un cabochard, c'est un têtu de premier ordre. Souvenez-vous de l'épisode du Covid et ce qu'il avait décidé, ce qu'il a mis en place envers et contre tout. Il a dit allez vous faire foutre, voilà, à tout le monde, aux organisateurs, au tennis mondial, etc. Moi c'est ma ligne et c'est comme ça. Il est un cran au-dessus, ce garçon. Donc ce garçon avec ce profil là, quand il met les pieds sur un court dans un tournoi du Grand Chelem, c'est pour aller au bout. C'est
d'accord.
Pas pour faire la
David,
figuration,
David,
c'est pas pour faire des photos.
Les deux. On ira le voir tous les deux, David, l'année prochaine, c'est toi qui paye le billet.
Au tournoi des légendes, vous irez.
Ok.
Rendez-vous l'année prochaine, David.
On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport. Était-ce la dernière de Novak Djokovic à Roland? Pour vous, c'est principalement oui à 59%, non 41%. Eric Salio, Sarah Pitkowski, je vous garde avec nous, déjà parce que vous êtes sympa, mais en plus, on va parler dans quelques instants de la folie Loïs Boisson à Roland-Garros. Est-ce que justement cette folie sauve aussi le Roland-Garros des Français? On poursuit la discussion autour des internationaux de France. Allez, à tout de suite sur RMC. Il est pile 10h30.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec les deux Fred, Fred Le Canu, Fred Weiss, David Douillet, Christophe Cessieux. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. Vous pouvez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport pour les propositions des GG sur leur thème du jour.
Allez voter Fred Le Canu parce que là, il est en pleine déprime. Ah là, c'est démonté.
Non, moi, je déprime pas du tout. C'est comme l'équipe de France. On va peut-être finir à 5-4, mais je me battrai jusqu'au bout.
Oui, pour l'instant, il y a 5-0 quand même.
Oui, bah, comme l'équipe de France.
Et puis, à partir de 11h, on ouvrira le dossier sur le Ballon d'Or qui a occupé la presse toute la semaine, la presse sportive. Un pays doit-il faire campagne? On se posera la question. Mais tout de suite, retour sur ce Roland-Garros des Français.
Aujourd'hui, nous allons parler du proverbe « l'arbre qui cache la forêt ».
C'est fait, c'est fait! C'est Loïs Boisson qui jouera les huitièmes de finale. Victoire en 3 manches.
Balle de match pour Holger Rune.
Envie la balle de match avec
Quentin
vous.
Alice avec une bonne première et un revers long ligne, c'est fini. Holger Rune qui s'en sort. Première balle, elle est dedans. Il y a un coup droit à faire, elle appuie. C'est fait.
Victoire de Loïs Boisson.
C'est incroyable.
Extraordinaire, Loïs Boisson est en quart de finale de Roland.
C'est exceptionnel.
Encore un revers de Richard, ça tient. Et s'il n'aurait pas bien, un coup droit de Richard. Ah, il la sort, ouais, c'est fini, jeu 7 et match. Et Richard qui hochine de la tête, qui, ouais, c'est fini.
C'est fait, on tombe sur le dos.
C'est incroyable.
Loïs Boisson, 361e mondial,
Welcome en demi-finale de Roland-Garros.
L'arbre qui cache la forêt, ça veut dire que l'attention portée aux détails empêche de saisir l'ensemble.
RMC, le dossier des GG.
Hochelinet de la tête.
Oui.
Bien joué, Eric.
Bah, je pensais à Hô Chi Minh, la capitale du Vietnam, non?
Bah, oui.
Ça peut arriver au bout de 8 heures.
Ah, elle vient de loin, ça.
Au bout de 8 heures de commentaires,
là,
ça peut arriver. Tu vas
avoir droit, Adrien Aigouin.
Oui, déjà, il m'a eu plusieurs fois.
Ouais, bon, t'inquiète, moi, c'est une habitude à prendre.
Boisson à volonté, boisson sans modération, boisson s'appétit, boisson pané, boisson d'avril. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais la presse s'en est donnée à cœur joie cette semaine pour commenter les performances exceptionnelles de Loïs Boisson, inconnue totale, qui a réussi à atteindre les demi-finales de Roland-Garros. Un destin unique. Jamais une wildcard n'avait réussi à se hisser dans le dernier carré des internationaux de France. La Boisson Mania s'est emparée du grand chelem parisien. La 361e joueuse mondiale va devenir lundi la première française, 65e au classement WTA. Un bol d'air, hein, c'est vrai, les GG pour le tennis français féminin qui creusait un peu plus sa tombe ces derniers mois. Mais il ne faut pas oublier que Loïs Boisson est la seule tricolore à avoir vu la terre battue en deuxième semaine. Les promesses des hommes ne resteront cette année que des promesses. Eric Salio, tu es toujours avec nous. C'est vrai qu'en 10 jours, Loïs Boisson a tout emporté.
Bah, c'est vrai qu'on attendait un certain Arthur et on a découvert un joli prénom féminin, Loïs, à qui on a demandé d'ailleurs s'il y avait des trémates, parce qu'on devait se renseigner. Moi, je suis allé à sa première conf de presse, je lui ai posé une question très bête. Je lui ai dit, on est des hommes de radio, qu'est-ce qu'on doit dire l'Azuréenne, la Dijonnaise? Elle m'a répondu... La Dijonnaise. Je dis merci, maintenant on est fixé. Non, on en était là, quoi. On partait de rien. Et cette fille a fait le journal de 20h hier soir avec Laurent Delahousse. Elle fait la une de l'équipe. Elle a donné rendez-vous avec l'équipe et d'autres médias à l'hôtel Molitor hier matin. Sa vie a changé. Et on a découvert aussi à France 2 une jeune fille avec les cheveux déliés, qui a beaucoup de charme. Et puis avec un sourire. Et d'ailleurs, Laurent Delahousse lui a arraché un sourire lorsqu'il a évoqué avec elle Raphaël Nadal.
Ouais, bah ça, ce serait clairement ouais. Mon rêve. Si un jour je peux parler avec lui, je pense que ce serait le meilleur jour de ma vie. Donc ouais, non, il est hyper inspirant dans tout, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que ça, vraiment.
Ouais, on est en train de la découvrir. Alors c'est vrai que pour les spécialistes, c'était pas une inconnue, puisque moi, pour la petite anecdote, il y a un an, je voulais l'avoir joué au Trophée Clarins, puisqu'elle jouait son premier tour. J'étais en vélo, j'étais en retard, puis j'arrive au stade là-bas. Puis je vois que le match a disparu et on me dit, oh là là, il s'est passé un drame, elle s'est fait les croisés. Là, j'étais effondré, j'ai même pris une photo de paparazzo, on la voit avec les béquilles, là j'ai honte, mais bon, je l'avoue. Mais pour les spécialistes, les cadres fédéraux, c'était pas une surprise. Écoutez Ivan Ljubičić, le responsable du haut niveau.
J'ai pensé déjà l'année dernière que Loïs, il était capable de faire quelque chose de très positif. L'année dernière, elle était vraiment prête d'avoir premier Roland Garros et malheureusement, il s'est blessé cette année. Elle a fait qu'est-ce qu'elle a dû faire ou elle a pouvait faire l'année dernière. Je connais le niveau de Loïs. Elle avait le niveau pour battre les joueuses fortes. Pour moi, c'est pas une surprise incroyable.
Faut le croire, c'est quand même un responsable du haut niveau, j'y sais. Maintenant, on a hâte de voir la suite. Alors, la suite, ça va être le gazon. Est-ce qu'elle aura la wildcard pour Wimbledon? C'est grand point d'interrogation.
Les Anglais, là, dis donc, on leur a
les Anglais sont pas si protectionnistes que ça, Christophe. Ouais. Il y a de vraies chances de l'avoir. On sera fixé le 18 juin. Mais en tout cas, elle a jamais mis les pieds sur gazon. Elle sera 65 ou 66 mondiales au classement qui va tomber lundi. Donc, tous les clignotants sont au vert. Maintenant, comment elle va gérer cette notoriété? Ça, c'est une vraie question.
Et on va faire d'abord ce débat, les amis, les grandes gueules du sport ce matin. Est-ce que la folie Boisson, forcément, on a tous aimé ce qu'elle nous a proposé. Est-ce que ça sauve le Roland-Garros des Français, à vos yeux, Christophe Sessieux?
Complètement.
Complètement. Fred Le Canut?
Non.
David Douillet?
Moi, je me suis enivré, oui.
Ok, c'est oui. Fred Weiss?
Non.
C'est non, c'est un 2-2. Sarah Pitkowski, c'est plutôt oui ou plutôt non?
Bah, c'est un grand oui. Comment ils peuvent répondre non?
Alors, justement,
il y a les grincheux et les heureux.
Les copains, on a moins de 10 minutes de débat, donc je vous propose de commencer avec le non pour essayer de convaincre le camp du oui. Fred Le Canut.
Bah, c'est une surprise pour tout le monde. Ça veut dire que le monde même du tennis n'avait pas vu venir. Ça veut dire qu'on est quand même fragile sur les appuis. Hein. C'est à un moment donné une jeune femme exceptionnelle qui a réussi à revenir après une blessure, qui avait une possibilité de réaliser tout ce qu'on a dit, mais on sent bien que c'était un potentiel qui, à mon avis, n'a pas été ciblé par tout le monde. Donc c'était quand même quelque chose de magique. Que ce soit magique, Boisson, il y a aucun sujet là-dessus. Que la performance soit grandiose, ça c'est tout à fait. On est d'accord. Que ça sauve maintenant cet aspect de contrôle, d'avoir une équipe large, garçons et filles. Enfin, je rappelle quand même que cette demi-finale, c'est la première depuis Tsonga. c'est la première aussi depuis Bartoli. Entre-temps, hormis l'effet waouh qu'on a sur Boisson, avec immense respect pour la performance isolée pour elle, je suis pas sûr que tous les systèmes l'avaient identifié, je suis pas sûr que tous les systèmes sont capables de reproduire ce qu'elle a fait avec d'autres athlètes de cette équipe de France. Donc que elle, sa performance soit monstrueuse, soit inoubliable, soit historique, oui. Qu'après, ça rassure sur le fait que l'équipe de France à Roland-Garros soit protégée et que le résultat sportif soit protégé chez les garçons, je suis désolé, hein, mais enfin la réalité elle est là, les amis. Hein. Après ça, je sais que tu grinces,
mais il y a un miracle qu'on doit être content. On peut pas être content. On est satisfait. On est évidemment. En plus, moi, c'est la fille de Yann Boisson, donc que je connais bien et qui est un dirigeant de basket. Donc forcément, on était ravis. On était tous devant la télé. Et oui, ça nous fait plaisir de voir une Française. Mais l'expression l'arbre qui cache la forêt, je crois qu'il a jamais été aussi bien employé. Parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas de garçon en deuxième semaine? C'est sur les quatre,
vous êtes
sur
les cinq. Vous êtes vraiment
et la filiation et pour rebondir sur le fait,
jamais satisfait, jamais content.
On peut se satisfaire de peu comme Christophe, c'est sûr.
En fait, mais vous rigolez que quand vous brûlez, Monsieur Vaille.
Non, je rigole quand
mets un coup de chalumeau là, ça file la banane. Mais vous êtes tellement triste, vous êtes plus qu'à mourir, les gars.
C'est pas parce qu'on est content d'un épiphénomène qu'on est content de tout le contingent français. On est
mais on s'en fout des autres. Mais on s'en fout des autres. On s'en fout toi sur ce qu'elle sur ce qu'elle t'a donné.
Mais non, mais
depuis combien de temps Fred, n'avais-tu pas vibré aux exploits d'un Français ou d'une Française à Roland-Garros? Moi,
années,
ça m'a rappelé, mais... ça m'a rappelé il y a 20 ans en arrière.
Quand tu allais en deuxième,
il y a eu Joe en 2017, je crois.
Non, en 2013.
Non, 2017, c'est Marion, c'est
Mladenovic et Marion, c'est 2011, et 2017, c'est Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, voilà, qui étaient allées en quart. Mais aucune de ces demoiselles n'avait battu, pardon, oui, la numéro 2 et la numéro 6 mondiale.
Mais
même au-delà du niveau.
En plus, on comprend rien.
Ce qui était génial en plus, c'est la découverte de cette nana. Moi, je suis désolé. Déjà, elle a réussi un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a réussi à éteindre l'incendie PSG. C'est-à-dire qu'au bout de mardi, on n'entendait plus parler du PSG. Et ça, c'est quand même énorme, parce que c'était un incendie dramatique, énorme. Et là, Boisson, elle les a éteints à coup d'eau, à coup de je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, les conversations avec les gens, c'était « Mais t'as vu cette petite Loïse Boisson? Mais t'as vu ce qu'elle met? T'as vu sa frappe? Mais t'as vu comme elle est costaud? Mais t'as vu comme elle garde son calme ?» Elle était dans toutes les conversations de tout le monde. Et ça, je trouve ça génial. C'est rare à Roland-Garros, pendant des années, on s'est emmerdé. Les Français disparaissaient au bout de la première semaine. Derrière, il y avait les athlètes, il y avait les grands champions qui arrivaient, mais on ne vibrait plus pour un Français ou une Française. Eh ben, elle nous a fait rêver.
Elle nous a fait rêver. Voilà. Je suis complètement d'accord.
Mais
le problème, c'est que tu oublies du fait qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a fait rêver tout le monde. Et tout le monde était devant l'écran, évidemment.
Toi, tu regardais du basket à cette heure-là, évidemment.
Il n'y avait pas de basket à cette heure-là.
Christophe ne répond pas à la question, malheureusement.
Mais en fait, je comprends pas. Tu confonds tout. Tu es en train de dire qu'on est en train de dire que c'était pas génial. C'était génial. Sauf qu'il faut penser aux autres Français qui n'ont rien fait.
Elle a du sourire, elle a du bonheur.
Les autres,
on sait qu'ils n'y arrivent pas.
C'est d'une tristesse absolue.
Eh ben non, parce que justement, la tristesse est compensée par ce rayon de soleil.
Pas suffisamment compensé. Moi, j'aimerais dire que
toi, il faudrait un Djokovic français ou un
Coco Gauff. Mais
tous les jours ou quoi, là? David Douillet. David et ensuite Sarah. Écoutez-vous, s'il vous plaît, sinon ça devient inaudible. David.
Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Elle a tout pour monter dans cette locomotive de tête et provoquer des déclics à la fois chez les jeunes femmes qui vont l'accompagner françaises, je parle, et chez les jeunes hommes français. Pourquoi? Parce qu'ils la connaissent, ils la voient, ils s'entraînent, etc. Et enfin, ils vont pouvoir se tourner vers un exemple et se dire, ah bah attends, je m'entraîne comme elle, j'ai pris le même cursus, etc., etc. C'est possible. Les déclics, ça existe dans le sport. Elle l'a eu là, maintenant. Et comme le disait très justement Sarah, eh ben la numéro 3 mondiale, la numéro 6 mondiale, la 20e mondiale, elle est 360e mondiale.
Il n'y a pas de débat sur ce qu'elle a fait.
Laisse-moi terminer. Ça ouvre la porte à tous les autres qui se disent, moi je suis X mondiale en centaines. Ça arrive. Parce que quoi? Et qu'est-ce qu'elle a dit dans ses interviews? Et qu'est-ce qu'a dit Mouratoglou? Parce qu'il la connaît bien. Parce qu'elle travaille, parce qu'elle est assidue, parce qu'elle est là, parce qu'elle y croit, parce qu'elle a le mental, elle a une blessure, elle s'accroche. Voilà, elle se regarde pas le nombril. Pour moi, Pour moi, elle a tous les ingrédients à montrer l'exemple. Et c'est pour ça que je suis très, très optimiste sur son parcours et sur cette jeune femme. Parce que elle a eu le déclic et elle va le donner, j'espère, à toutes les équipes de France.
Non, mais ce qui est quand même, non, mais pour revenir quand même sur la question. La question, c'est le conte de fées de Boisson sauve-t-il le Roland-Garros des Français? Des Français, quels Français? Si tu dis c'est tous les Français, si tu dis c'est tous les Français qui regardent, mais bien sûr que oui, c'est extraordinaire. Maintenant, si tu parles des Français qui jouent, c'est la question, elle est là. Et il y a un truc super important qui a été dit. Fred l'a dit. Dans la filiation du haut niveau, elle est issue d'une famille qui connaît le haut niveau, en basket notamment. Et ça, ça a amené une transmission, une pédagogie qui lui a peut-être permis d'être là aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça répond pas à la question des autres, qui sont en grande difficulté aujourd'hui, puisqu'on n'y arrive pas. Donc est-ce que ça sauve le haut niveau? Ben, moi, ça donne un exemple extraordinaire. On a vécu un moment d'anthologie. En revanche, est-ce que ça sauve la capacité aujourd'hui d'être concurrentiel pour les autres Français? La réponse, malheureusement, j'en suis désolé,
ça,
c'est non.
Je ne peux pas dire ça parce que
David, j'arrive.
Ça sauve le Roland Garros 2025. On ne demande pas de parler bien de ce qui s'est passé avant, ce qui se passe ainsi
Boisson,
devant.
Ça sauve Loïc Boisson, c'est tout.
Mais non,
ça sauve Roland Garros 2025. Peu importe d'avoir un Français, que ça soit un homme, que ça soit une femme, en deuxième semaine et en plus en deuxième semaine, c'est une chose. En demi-finale, c'en est une autre. Ouais. T'es dans le dernier carré. Mais évidemment, on cherche quelque chose d'inspirant. Dans le tennis féminin, on est dans le creux de la vague comme jamais. D'avoir une jeune femme qui, je ne sais pas par quel miracle, c'est pas son tennis qui est un miracle, c'est pas son résultat, mais de sortir à ce moment-là, alors qu'on n'a plus aucun espoir, qu'on cherche la bonne solution, il faut une dizaine d'années pour sortir un champion ou une championne. Et je vous donne pas de classement. Aujourd'hui, d'avoir Loïc Boisson qui devient numéro une française, qui rentre dans le top 100, il y a quelque chose d'inspirant. Ça va redonner de l'élan. Exactement. Et avec son histoire, ça montre que quand tu es blessé, quand tu fais un parcours parallèle au fameux cursus fédéral où on te dit « Ah bah tiens, tu vas jouer en équipe de France, tu vas faire ci, tu vas faire ça », elle a fait son chemin, elle y croit. En fait, elle inspire tout le monde. On peut se faire une énorme blessure. On peut être infect sur le terrain petit.
Ouais.
Et trouver la voie comme elle est en train de le faire. Donc chapeau bas. Et on a besoin. Et elle va autant inspirer les jeunes filles qu'elle va inspirer Arthur Fils aussi. C'est-à-dire que tout le monde, il y a une émulation, garçons et filles. Quand Amélie Mauresmo est devenue numéro un mondial, quand elle gagne le Master, quand elle gagne des grands chelems, mais tous les garçons qui étaient les Tsonga, les Simon, les Gasquet et les Monfils, ils étaient inspirés par ce qu'était en train de faire Amélie Mauresmo, de créer sa structure personnelle, de se prendre en main. Donc en fait, hommes et femmes, ils s'inspirent et on a besoin de ça. Arthur Fils, Loïc Boisson, je commence à retrouver un peu d'élan. Je ne vais pas dire qu'on va gagner des grands chelems demain, mais je retrouve de l'élan et on a une vitrine qui ressemble au statut d'un pays comme la France qui doit être sur le devant de la scène sur le plan du tennis par nos subventions, par le fait qu'on est ultra bien organisé et qu'on ait un grand chef qui finance le tennis en France. Voilà.
Vous savez quoi, les GG, c'est passionnant. Donc on va poursuivre la discussion. Les GG contre-attaque, je vous donne rendez-vous à 11h45 et on en reparlera évidemment un petit peu plus tard. Mais on garde les GG contre-attaque, mais on va rester sur le tennis. Juste, je salue Sarah, parce que Sarah, tu dois évidemment venir nous rejoindre.
Oui, je vais rater mon train.
Vas-y,
à cause de vous.
Tu peux partir tranquillement. Tu vas commenter la finale dames cet après-midi entre Sabalenka et Coco Gauff, entre les deux meilleures joueuses au monde. Donc on t'attend évidemment sur le cours Philippe Châtrier. On va revenir dans quelques instants, mais là, on va jouer un petit peu.
RMC, tu gardes ou tu switches?
C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter, grâce à Micromania Zing, la console Nintendo Switch 2. Vous allez la recevoir bientôt. Mais pour cela, il faut jouer. Envoyez dès maintenant Switch au 732-16. Switch, oui, Mario. S-W-I-T-C-H. S-W-I-T-C-H. Switch au 732-16. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous. Le grand gagnant viendra dans cette émission. Nous, on se retrouve dans quelques instants et on continue de parler de Loïc Boisson. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Et les GG sont prêtes également. Ça fait un peu plus de bruit que sur le cours central, hein, ici, que sur le cours Philippe Châtrier.
Ça fait mal aussi parce que vous êtes vient de me jeter le casque au visage.
Stop, dissipé. La folie Boisson sauve-t-elle le Roland Garros des Français? On continue de se poser la question dans les GG. Sachez qu'à partir de 11h, on parlera du dossier Ballon d'Or. Un pays doit-il faire campagne? Éric Salio est toujours avec nous, évidemment. Ensuite, tu vas tranquillement aller à Roland-Garros, porte d'Auteuil pour cette finale dame. Restons un instant sur Boisson. On se pose la question souvent, est-ce qu'elle est prête pour durer? Est-ce que c'est juste un feu de paille, ce Roland? Ou est-ce qu'elle va justement continuer de nous éblouir à ce point? Est-ce qu'on a des garanties, Eric?
Moi, je pense que sa détermination, son caractère, ce sont des garanties. C'est une fille qui veut gagner Roland, qui le clame, qui n'a pas peur de le dire. C'est pas français, quelque part, ça. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup, parce que elle croit
elle
en elle.
Elle a dit, je ne rêve pas d'une demi-finale à Roland. Je rêve de gagner ça, Roland.
Mais c'est nouveau, c'est presque pas français. Donc moi, je crois beaucoup en elle. Faudra juste que les médias soient tempérés, parce que oui, peut-être qu'elle va prendre un premier tour à Wimbledon, mais il faudra pas s'affoler. Effectivement, c'est une fille qui a le jeu pour gagner Roland Garros. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on a eu des grands exploits à Roland. Souvenez-vous du parcours d'Hugo Gaston, qui fait huitième, qui rentre dans les foyers à 20h un dimanche soir en poussant Dominique Thiem au 5-7. Bon, Hugo, il n'a pas été plus haut que 56. Alors, là, je pense vraiment.
Des Français,
oui, il avait sauvé l'Hugo. Là, je le dis.
Il avait été inspirant.
On tient une pépite. Voilà.
Ok, il le dit, il est content de lui, il est content de son effet de manche, très bien. Christophe, est-ce qu'on peut avoir des doutes?
On peut avoir des doutes forcément, parce que quand tu viens de nulle part, ou presque, même si Eric nous dit que il y avait quand même une base, et que tu arrives au sommet, et que derrière, il va falloir assumer tout ça. Parce que derrière, des salios vont aller la voir maintenant toutes les semaines à l'entraînement. Alors Loïse, est-ce que tu as fait des progrès? Alors est-ce que tu sais jouer sur gazon maintenant? Alors ton tirage au sort, elle n'est pas habituée à ça. Personne.
Ouais, mais elle est structurée,
mais,
Christophe.
Mais je sais, mais même si t'es structuré, tu prends quand même une autre façon de voir ton métier quand même dans la gueule quand tu vois toutes les sollicitations. Et puis si elle se plante au premier tour de Wimbledon, tout le monde, les gros titres des journaux, c'est Loïse Boisson n'a été qu'une étoile filante. Je le vois tout de suite là. J'imagine tout à fait le scénario.
Boisson donc, fraîche, par exemple.
Donc il va falloir
boisson amère.
Il va falloir qu'elle digère tout ça et qu'elle reparte vers de nouveaux sommets, mais c'est pas évident à assumer hein, ce genre de c'est la semaine la plus intense de sa vie qu'elle vient de passer quand même.
David Douillet.
Elle a ouvert une porte, que vous le vouliez ou non, elle a ouvert une porte, elle a donné une bouffée d'air frais au tennis français.
On n'a jamais dit le contraire, David.
Mais non, mais moi, enfin, je suis. Mais sans déconner, mais comment vous avez fait pour faire du sport, les copains? Vous êtes d'un pessimisme. Et si elle a ça, et si elle a ça, et puis si elle a ça, et puis si elle a ça. Oh, stop! Elle était en demi de Roland. C'est.
Mais tu fais une émission parallèle,
mal classée,
David.
L'avait pas fait. Une joueur aussi mal classée l'avait pas fait depuis 40 ans. Tu vois, c'est. Putain de bouffée d'oxygène qui est là, qui est présente, elle l'a prouvé. Maintenant elle commence à rayonner sur le tennis français. Elle va provoquer des électrochocs à plein de personnes et je suis sûr qu'elle va continuer parce que c'est quelqu'un qui travaille. Moi j'ai écouté cette interview qui était extrêmement claire, précise de Mouratoglou qui est un brillant entraîneur. Il a dit, elle travaille depuis toujours. Elle est là. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vient me péter à la figure. On le sait, on le sentait, on voyait mûrir cette pépite et commence à se dégrossir. Et voilà, les résultats commencent à arriver. Ouais, écoutez ceux qui l'ont connu jeune, etc. Il y a un tennisman dont j'ai oublié le nom qui est en cours chez les hommes, qui s'est entraîné avec et qui disait ça et qui disait mais on s'entraîne ensemble, etc. Moi, je l'ai vu dans le vestiaire. Je vois comment elle réagit. Elle est faite. Ça y est, elle a éclos et elle est faite pour durer. Voilà. Donc
il y a deux
de l'espoir, les amis.
Oui, de l'espoir. Mais il y a deux sujets qu'il faudra surveiller. C'est son corps, parce qu'elle a déjà été blessée. Donc ça, c'est son corps qu'il faudra surveiller en priorité. Et c'est la réaction des autres. Elle n'était pas connue, elle l'est. Je te prends juste un exemple de judo. Gaba, quand il bat Abe, tout le monde l'a vu que c'était un moment d'anthologie. D'accord. Derrière, le kataguruma là qu'il a fait. Tout le monde s'est réadapté, il l'a plus mis en début de saison à personne. Donc maintenant, elle est connue, elle est reconnue, elle va devoir s'adapter à des gens qui connaissent désormais son tennis. L'histoire est loin d'être finie.
Ça, c'est vrai que c'est une dimension à prendre en compte.
22 ans.
Entre les pisses vinaigres d'un côté, les ravis de la crèche de l'autre côté, je ne sais pas où va mon cœur aujourd'hui dans les grandes gueules du sport.
Je sais que tu vas faire les pisses vinaigres.
Dis-toi qu'elle a 22... elle n'a que 22 ans. Dites-vous ça et réfléchissez à ça.
Et on reparlera de Loïse Boisson, évidemment, dans cette émission. Merci beaucoup, Eric Salio, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour parler du Ballon d'Or. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.